Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le RER à 50 ans, une série documentaire de Christelle Lepolothèque réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a un anniversaire, un son reconnaissable et des souvenirs de foule à la gare Saint-Lazare. Il y a des paysages qui changent derrière la vitre, des trains bondés, en panne ou surchauffés, et puis aussi les Trente Glorieuses et le projet d'une mégapole tentaculaire et moderne. Alors pour commencer, les personnages. Un planificateur du passé, un historien qui décode, des reporters épatés, des architectes, des ingénieurs, des voyageurs, Dalida et un président conducteur. Ensuite, le décor, un rêve en marche, le métro express, des tunnels, le schéma directionnel, des coups de pioche, des villes nouvelles, du calcaire, des galeries marchandes et le dernier train à vapeur. Aujourd'hui, premier épisode, des archives à remonter le temps.
Les rames s'apparentent plus à un train qu'à un métro. La couleur est originale, bleu pervenche et bleu gris ceinturé de jaune au-dessus des portes. Mais ce qui intéresse plus particulièrement les usagers, ce sont les stations, je le nomme cette ligne. De droite à gauche, Saint-Germain-en-Laye, Le Pec, Le Vésinet, Château-Croissy, Rueil-Malmaison, Nanterre, La Folie, la station M, avec raccordement vers Montesson, La Défense, Pont-de-Neuilly, Étoile, Haussmann, Aubert, Châtelet, Gare de la Bastille, Nation, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-Créteil, le Parc Saint-Maur, la Varenne-Chenevière, du Siboneuil.
Paris a, si l'on peut dire, depuis longtemps dépassé sa banlieue. Et les années qui viennent verront, notamment à l'ouest, grossir démesurément la grande banlieue. Dès à présent, la gare Saint-Lazare, qui draine tout l'ouest de Paris, a peine chaque matin à suffire. Mais que dire de la station correspondante du métro, par où toute cette foule essaime à travers la capitale? Ainsi s'est affirmée la nécessité d'une grande voie transversale souterraine est-ouest, capable de déverser 50 000 usagers par heure au cœur même de Paris en résorbant l'engorgement de Saint-Lazare. Ce métro express, qui roulera un jour à 30 mètres sous Paris, doublera le grand axe routier qui passe par les Champs-Élysées. Il aura l'avantage de desservir le rond-point de la Défense, où un prodigieux ensemble administratif s'intégrera un jour prochain au Paris de demain. Il faudra attendre 10 ans avant que les maquettes du métro express qu'a admiré le ministre des Travaux Publics soient entrées dans la réalité. C'est que le coup de pioche de M. Buron, qui a ouvert les travaux de la traversée souterraine de la Seine, représente quelque 250 milliards d'anciens francs. Le prix de la traversée de Paris à 100 km/h.
Du train de banlieue au réseau express régional. Pour les 50 ans du RER, oublions quelques instants les trajets fastidieux dans des rames surbondées et replongeons-nous dans les Trente Glorieuses, le baby-boom, un schéma directeur et un chantier monumental. Pour reconstituer l'épopée qu'a constituée cette prouesse technique, nous avons fouillé dans les archives de l'INA. Il y aura des reportages de journalistes exaltés croyant fermement à la promesse de ce nouveau progrès dans les transports. On croisera d'anciens présidents de la République, des directeurs de la RATP et même la chanteuse Dalida au détour des couloirs de la gare d'Aubert. Nous suivrons aussi ces voyageurs qui, en 69, découvrent pour la première fois le métro express et les joies de la modernité. Mais tout d'abord, place au père des villes nouvelles, Paul Delouvrier, délégué général au district de Paris le 25 mai 66.
Nous avons mis 3 ans à élaborer ce qu'on appelle le schéma directeur de la région de Paris. Qu'est-ce que ce schéma directeur? La carte du futur, de l'extension parisienne. Extension qui conduira l'agglomération de 9 millions à 12 millions d'habitants, à la condition que les autres villes de France doublent dans le même temps leur population. Quel est l'esprit de ce schéma directeur? Au lieu de faire un nouveau mur de pierre autour de l'agglomération existante, de diriger sur des axes préférentiels, dont le plus important se dirige vers Rouen, et deux secondaires, l'un vers Melun, l'autre vers Meaux, la croissance de cette agglomération. J'ajoute aussi que la vallée de l'Oise doit être prise en considération. En résumé, le schéma directeur, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est faire sortir Paris hors de la région parisienne.
Nous vous avons déjà montré comment le schéma directeur essaie de supprimer la tache noire de Paris. Mais il ne suffit plus de traverser Paris. Il faut pouvoir l'éviter par des voies tangentielles. Parvenir à sa périphérie sans perdre des heures entières. Le nouveau plan du métro express doit pourvoir à cela.
Philippe Vintégeol, le projet fondateur du RER tel qu'il existe, il va naître dans l'après-guerre, avec notamment le baby-boom. On peut dire que c'est Paul Delouvrier qui est vraiment à l'origine. Il est alors au district de Paris, c'est ça?
Il y a plusieurs époques, en fait. Il y a d'une part en 1960... la mise en place de ce qu'on appelle le district, qui est une autorité qui fait apparaître en quelque sorte un échelon régional et qui conçoit un plan qu'on appelle le PADOG, lequel contient les principes de construction du RER, en particulier l'intégration dans ce RER des lignes de Saint-Germain, des lignes de Boissy, et c'est quelques années plus tard, donc, Paul Delouvrier intègre un volet RER dans son plan d'aménagement de la région parisienne, qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, hein, le SDO. Plan qui, je le rappelle, a essentiellement pour viser d'organiser le développement de la région. Et en particulier contient les projets de villes nouvelles. Donc il y a cinq villes nouvelles, Cergy, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, Ivry et puis Melun-Sénart. Et ces villes nouvelles, d'une part, doivent être suffisamment forte et autonome pour devenir de véritables centres urbains, en quelque sorte, et ne pas devenir d'autres banlieues de dortoirs. Vous savez, c'est un thème qui est très à la mode, hein, à l'époque. Hein. Mais elles doivent aussi être insérées, en quelque sorte, dans une trame régionale, donc avoir des complémentarités entre elles. Elles doivent être reliés à Paris, et très vite, la question de leur desserte ferroviaire comme support, en quelque sorte, de leur développement et de leur maturation apparaît. Et c'est donc le projet de l'ouvrier qui comporte, outre la ligne A Saint-Germain-en-Laye, Vincennes, qui a déjà été mis en chantier à l'époque, puisque le premier coup de pioche a été donné par le ministre des Transports, Robert Buron, en 1961. Elle doit aussi comporter plusieurs autres lignes, deux lignes nord-sud, une ligne qui va faire Évry-Villetaneuse avec un lien vers l'aéroport de Roissy, qui est en projet à l'époque, et une autre ligne qui relie Saint-Germain à Saint-Quentin-en-Yvelines. Naturellement, ces deux lignes supposent la création de deux tunnels de toutes pièces au centre de Paris, et c'est les coûts extrêmement importants qui sont attachés à ces projets qui vont faire qu'elles vont connaître un sort différent et être reprises dans d'autres projets, notamment au travers de l'interconnexion.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, un premier coup de pioche, c'est bien, certainement très utile. Mais ce qui nous intéresse, nous, davantage, c'est de savoir quand tout ceci sera terminé.
Roger Belin, directeur général de la RATP en 1961.
La transversale traversant tout Paris ne sera terminée qu'en 1970. Mais nous commençons aujourd'hui un premier tronçon qui ira de la Folie à l'Étoile et qui doit, lui, être terminé au début de 1965. Et en même temps, nous électrifierons la ligne de Vincennes qui apportera le tronçon Est, le démarrage de la transversale et qui sera terminé, lui aussi, au 1er janvier 1965.
Donc, les banlieusards et les Parisiens peuvent noter aujourd'hui qu'en 1965, ils pourront aller de Défense à l'Étoile et qu'ils pourront emprunter des trains électrifiés sur la ligne de Vincennes.
Exactement.
C'est sûr.
C'est sûr.
Bon. Combien tout cela coûtera-t-il, monsieur le directeur général?
Bien, il faut compter, c'est assez cher à l'ouest parce que nous sommes en souterrain et très profond, il faut passer sous la Seine. Il faut compter de ce côté-là environ 600 millions
de nouveaux francs. Quel matériel circulera-t-il, messieurs?
C'est un matériel genre train de banlieue SNCF. Et nous étudions, nous mettons au point actuellement un matériel entièrement nouveau, avec bogie aussi silencieux que possible dans le tunnel.
Je voudrais vous demander enfin, est-ce que dans les cartons de la RATP existent des projets d'autres transversales, Nord-Sud par exemple?
Il y a un autre projet Nord-Sud dont on peut trouver une amorce par la ligne de Sceaux aboutissant à Denfert. Mais le trajet de cette nouvelle transversale n'est pas encore absolument délimité. Il est vraisemblable qu'au lieu de descendre sur le Châtelet, nous irons de Denfert à Montparnasse et ensuite pour remonter vers le nord en passant peut-être par la Concorde et l'Opéra, mais enfin ce trajet n'est pas encore bien défini.
Et vous n'avez aucune idée des délais que tout ceci demandera?
Théoriquement, il faudrait que nous commencions cette seconde transversale avant 70, peut-être en 68 si nous pouvons le faire.
En tout cas, alors, monsieur, je retiens que nous nous retrouvons en 1965.
En 1965, nous nous retrouvons sur
dans le premier train.
La photo qui montre Robert Buron qui lance le chantier du RER a été prise au pont de Neuilly. Elle est assez emblématique en quelque sorte du démarrage et du chantier du RER et de l'émergence de cette ville qu'est la Défense.
C'est ça, c'est un petit peu le symbole de ces Trente Glorieuses, on pourrait dire.
C'est vraiment un symbole de ces Trente Glorieuses. Sur les photos de l'époque, vous avez comme à Châtelet un énorme trou qui va accueillir la gare de la Défense qui est vraiment au cœur de ce quartier qui n'a pas cessé de se développer.
C'est, on peut dire, la première gare destinée aux travailleurs de ce pôle d'affaires. Je crois qu'il y a aussi, il y avait une gare précédente qui desservait le parc des expositions, c'est ça?
Alors, il y avait effectivement une gare temporaire, je crois, qui était lié aux expositions qui se tenaient à l'époque au sein du CNIT et dont on se plaignait un peu à l'époque que ce lieu important, en quelque sorte, n'était pas bien desservi à la hauteur de ce que l'on se souhaitait en faire. Et il y avait, je crois, outre ces trains, il y avait par contre à chaque grand événement à la Défense, une armée de bus qui faisait une liaison entre le terminus du métro au pont de Neuilly et puis le rond-point de la Défense.
En effet, on sait que depuis un certain nombre d'années, la RATP étudie divers plans dont la réalisation permettrait de doubler la ligne de métro numéro 1, sursaturée à certains moments, par une ligne spéciale à gabarit SNCF profonde d'environ 30 mètres qui rejoindrait les voies ferrées de Saint-Germain et Vincennes. Pour ce qui est du raccord Saint-Germain, il se ferait à la gare de la Folie près du nouveau palais des expositions du CNIT à la Défense. Passant par le rond-point de la Défense, le métro Express, c'est ainsi qu'il s'appellera, atteindrait le pont de Neuilly où il trouverait son premier point de raccord correspondance avec le métro normal. Puis, suivant en profondeur la ligne courante, il ne remonterait plus qu'à Étoile, qui serait en quelque sorte le premier tronçon de son trajet parisien. C'est-à-dire qu'en l'empruntant, l'usager sauterait trois stations, soit Sablon, Maillot et Argentine. À moins que le premier arrêt ne soit Concorde, en quel cas le voyageur en sauterait sept. Inutile de préciser l'avantage que cela représenterait pour le banlieusard travaillant en plein centre, ceci dans les deux sens, sans parler de la rapidité avec laquelle on atteindrait le palais des expositions de la Défense pendant les grandes manifestations, souvenez-vous d'ailleurs du Rocher Farran des Floralie, lors de l'année dernière. Donc ce serait à Étoile ou à Concorde que ce métro express trouverait sa correspondance avec la ligne normale. Et il semble d'autre part qu'à la gare de la Folie, il serait prévu un embranchement sur Maison Lafitte et Poissy.
Pour comprendre, il faut remonter aux sources. La Belle Époque. Jules Verne, la Tour Eiffel, la Fée Électricité et les compagnies privées de chemin de fer. Paris est encombré par les chevaux à crottin ou à vapeur, paralysé par les expositions universelles. Les projets les plus fantaisistes fleurissent. Métro à vapeur, dans les égouts, montagnes russes, gondoles aériennes. Chez les gens sérieux, ceux de la politique et de la finance, deux camps qui vont se battre pendant 40 ans. D'un côté, les députés de l'Assemblée nationale et les compagnies de chemin de fer qui veulent faire pénétrer directement le train dans Paris avec une seule ligne reliant entre elles toutes les gares parisiennes et un minimum de stations. De l'autre, les élus de Paris, qui pour régler leurs problèmes de circulation, veulent un métro indépendant et le quadrillage le plus serré possible.
On voulait faire le métro, à un moment donné, en voie étroite, pour être sûr que les compagnies de chemin de fer, surtout la compagnie du Nord qui était appuyée sur les Rothschild, vous voyez, c'est ça le principal protagoniste dans l'affaire, pour être sûr qu'ils ne pourraient pas faire passer leur matériel roulant. Finalement, comme vous le savez, le métro a été fait en voie normale, mais le gabarit du matériel est plus étroit que celui de la SNCF. Alors Berthelot, qui était ministre de la guerre à cette époque-là, a expliqué qu'en cas de guerre, on pourrait quand même utiliser les voies du métro pour transporter, si vous voulez, des plateformes avec du matériel ou des soldats, mais qu'en temps de paix, les wagons de voyageurs de la des compagnies de chemin de fer de l'époque étaient trop larges pour passer dans les tunnels. Oui.
Est-ce que c'est vrai que la ville de Paris refusait qu'il y ait des trains qui puissent circuler sur les lignes de métro, de crainte d'une invasion, notamment militaire?
Il est vrai qu'à l'origine du métro, donc dans les années 1900, l'autorité militaire contraint la ville de Paris à construire son métro à l'intérieur de l'enceinte, strictement à l'intérieur de l'enceinte. Mais ensuite, dès que la question revient à la surface, donc avec ce plan que j'évoquais à l'instant, le plan Langevin-Rudemann, on est entré dans une autre époque. Vous savez que c'est la même époque que les fortifications ont commencé à disparaître et à être transformées en ce qui est devenu la ceinture rouge de Paris, du nom des immeubles en briques qui sont apparus à ce moment-là. Et donc la question de cette opposition est tombée d'elle-même, en quelque sorte.
Elle est tombée d'elle-même, mais il n'empêche que ce ne sont pas les mêmes gabarits.
Alors, il est vrai que le métro parisien tel qu'il a été conçu, je vous ai dit, avec cette image qui l'apparente à quelque sorte d'intermédiaire entre un tramway et puis le chemin de fer, a des caractéristiques techniques qui interdisaient la circulation de trains des grands réseaux, pour reprendre l'expression de l'époque, sur ces voies.
La question de relier les gares parisiennes entre elles est une source de conflit qui remonte au XIXe siècle. Face à la volonté de l'État, la ville de Paris a toujours exprimé sa plus ferme opposition, de crainte des invasions militaires si les lignes de chemin de fer s'acheminaient jusqu'au centre de la ville. De peur aussi que les Parisiens ne quittent en masse la capitale pour aller s'installer en banlieue si les transports domicile-travail étaient facilités. Résultat, les gares ferroviaires disséminées à l'extérieur du centre historique restèrent en cul-de-sac pendant plus d'un siècle. Dans l'archive suivante, qui date de 67, on peut constater que le conflit entre l'État et les élus de Paris reste toujours présent dans les esprits, bien que les travaux du RER soient déjà fortement avancés.
Il y a un malaise dans la région parisienne, il y a même une petite fronde des élus, une fronde des élus, c'est un petit peu une tradition historique à Paris depuis Étienne Marcel, mais ce malaise des élus ne fait guère que refléter les difficultés d'existence des populations. Ces difficultés d'existence, elles tiennent bien des causes. Je crois qu'on peut centrer le débat sur trois thèmes. Il y a les transports, il y a le logement et l'urbanisme, les conditions d'existence. Puis il y a peut-être aussi les perspectives de l'emploi à long terme, ce qui pose à peu près la question de à quoi sert la région parisienne. Est-ce qu'il faut laisser des gens s'y accumuler et si en même temps on dissuade les industriels d'y créer des emplois? Alors peut-être, messieurs, pourrions-nous commencer par le thème des transports. Monsieur Griotré.
Vous le savez, ce qui frappe le plus en région parisienne, c'est l'extraordinaire réalisation qui se fait sous nos yeux de ce qu'on appelle le RER, le métro régional express, qui doit joindre Saint-Germain à Boissy-Saint-Léger. La presse a énormément parlé des difficultés qu'a connues cette réalisation, dont on peut être assuré maintenant qu'en tout cas le tronçon allant de la Défense à l'Étoile sera mis en service dans les deux années qui viennent. Je pense pour ma part et qu'il eût mieux valu consacrer l'effort considérable financier et technique qui a été fourni pour réaliser ces tronçons du RER, il aurait mieux valu consacrer cet effort à la prolongation de toutes les lignes de métro en banlieue. Et j'ai l'expérience personnelle des difficultés considérables que nous avons eues pour obtenir l'autorisation de la prolongation du métro de la Porte de Charenton jusqu'à Créteil, la nouvelle préfecture, alors que les crédits nécessaires étaient presque insignifiants par rapport à ceux que je viens d'évoquer.
Oui, parce que je crois qu'on peut dire qu'effectivement, un métro en banlieue, très souvent, pourrait être construit presque en tranchée, c'est-à-dire à des prix de revient assez faibles. Seulement, l'avantage du RER, c'est qu'il permet tout de même de desservir le centre de Paris.
Mais le centre de Paris, à l'intérieur des anciennes fortifications, Paris est relativement pas mal desservi, tandis que le problème, ce sont les nouveaux départements, l'ancienne banlieue.
Qu'est-ce qui fait que la ville de Paris a été si réticente au projet du RER, mais même bien avant, c'est-à-dire qu'elle a toujours privilégié des lignes de train en cul-de-sac à Paris et refusait cette circulation à travers la ville?
Il y a effectivement, à la fin du 19e siècle, deux projets qui s'opposent. D'une part, un concept, en quelque sorte, pour employer un terme actuel, un concept porté par l'État, qui est celui d'assurer la connexion entre elles des grandes gares parisiennes. Et ça vise essentiellement les trafics majeurs de l'époque, qui sont les grandes lignes. La banlieue n'a pas l'importance qu'elle a prise depuis. Et vous avez, sur un autre plan, vous avez une approche et une volonté assez différente de la ville de Paris, qui est celle de créer son propre système de transport urbain, conçu comme une espèce de gros tramway, c'est-à-dire avec des interstations assez courtes, avec des fréquences importantes, et c'est quelque chose de très différent de ce qu'aurait été le projet de l'État. À la limite, je pense pas que les deux s'opposent, même s'ils ont été opposés en fait en programmation et en financement effectivement. Et dans une certaine mesure, c'est le projet de l'État qui revient quelques années plus tard, sous l'impulsion d'ailleurs de la compagnie du métro de Paris, qui propose dès les années 30 un plan pour convertir en quelque sorte aux méthodes d'exploitation métro un certain nombre de lignes de chemin de fer un petit peu isolées et qui ont acquis une certaine importance en termes de desserte de la banlieue proche qui est en train de se développer.
Dévié, parqué, canalisé. Les 2,5 millions de Parisiens qui sont revenus de vacances se sont trouvés pris dans un réseau de palissades et de barrières. Paris est devenu une sorte d'immense chantier. Pétrole ? Non. Poursuite des travaux du métro express. En même temps qu'on élargit avenues et boulevards, on perfectionne la circulation souterraine. Et l'Arc de Triomphe a l'air prisonnier de flèches métalliques. C'est un fait qu'on avait rarement vu autant de grues tendre leurs bras d'acier dans le ciel de Paris. Quel sera-t-il ce Paris de l'an 2000? Il aura peut-être un petit air de ressemblance avec New York.
De l'Étoile à l'avenue de Madrid, le tunnel en forme de fer à cheval s'étend sur 2900 mètres de longueur.
Animation insolite et travaux sans relâche peuvent définir l'entreprise du Métro Régional Express. Sur cette carte se dessine le tracé de ce futur Métro Express. Entrée plein, les sections SNCF à ciel ouvert déjà existantes et qui seront raccordées à ce qu'on appelle la transversale Est-Ouest. Cette transversale, d'une longueur de 49 km allant de Saint-Germain à Boissy-Saint-Léger. Ce tracé suit l'axe de passage et de peuplement le plus important de la région parisienne. Les travaux du Métro Régional Express ont commencé à la Défense en 1961. Pendant toute leur durée, les travaux se sont heurtés à de sérieuses difficultés, notamment la présence de calcaire très dur.
À la Défense, un immense puits de 30 mètres conduit au plus insolite des chantiers parisiens, celui du futur Métro Express. Le tunnel a déjà 600 mètres de long. Derrière un bouclier de métal, des ouvriers travaillant sous air comprimé progressent de 3 mètres par jour. Mais le travail durera encore des années. La ligne transversale comprendra en effet 20 km de souterrain à travers tout Paris. Pour l'heure, tandis que la première équipe progresse à partir de la Défense, une autre avance à sa rencontre à partir de l'Étoile, où la cavité de la future station est presque réalisée. Au fur et à mesure que la galerie se creuse, les éléments de la voûte sont posés automatiquement et c'est une véritable prouesse technique qui s'accomplit sous les pieds des Parisiens sans qu'ils s'en aperçoivent, ou si peu.
Pour avancer dans le sol, les hommes ont ici une aide précieuse. Il s'agit d'une machine à forer du type Robbins. Cette taupe mécanique dégage la terre, terrasse et tapisse la voûte au moyen de deux bras érecteurs mobiles. Ces bras, les voici en action.
Ce chantier, donc, entre la Défense et l'Étoile, un chantier qui a duré très très longtemps, qui a coûté beaucoup d'argent, je crois qu'il a été très suivi par les médias. Vous avez l'impression que c'était un événement important, c'est pour la population, cette création là, de ce premier tronçon, la Défense-Étoile?
Oui, je pense que... Enfin, la Défense-Étoile est important.
Philippe Ventejol.
Effectivement, il intéresse naturellement les gens de la Défense dont on parlait tout à l'heure, mais c'est parce que, de manière beaucoup plus large, il fait apparaître une nouvelle conception de ce que peuvent être les espaces de transport. Vous avez des gares avec des volumes extrêmement vastes, et vous avez des trains extrêmement modernes à l'époque, un service très rapide, on roule à 100 km/h entre Étoile et la Défense. Et donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme une rupture avec tout ce qu'on connaissait auparavant. Il est vrai qu'à l'époque, il a fallu reconstruire toute une compétence en matière de conception de travaux souterrains et que, effectivement, ça a été long, compliqué et cher. Et en même temps, c'est les étapes suivantes qui ont bénéficié des savoir-faire et l'expérience acquise. Je vous expliquais tout à l'heure la complexité du chantier de Aubert qui était réalisé en même temps, puisque cette première phase était juste, en quelque sorte, la mise en service du premier bout qui était prêt, le premier tronçon qui était prêt.
En 1967, Pierre Veil, directeur général de la RATP, décrit le tracé initial du RER et les stations dont certaines ne verront jamais le jour.
Prenons la ligne alors telle qu'elle se présente. Les travaux sont déjà très avancés à partir de la faculté de Nanterre.
sur plus d'un kilomètre, un tunnel est déjà creusé, à ciel ouvert et refermé maintenant. Un peu plus loin, une très grande station dans ses dimensions analogues à celle-ci, mais qui comportera quatre voies, puisque ce sera un embranchement vers Montesson et Saint-Germain plus tard. Et très avancée, elle est construite à ciel ouvert. Cette station desservira à la fois la préfecture des Hauts-de-Seine et le futur musée du XXe siècle. La station de la Défense, elle, est totalement terminée dans son gros œuvre et nous avons commencé à mettre en place les premiers des 50 escaliers mécaniques qui desserviront chacune de ces quatre grandes stations. En passant, je peux vous dire que nous avons commandé d'un seul coup 200 escaliers mécaniques, ce qui, en France, est tout à fait exceptionnel. De la Défense à la Seine, le tunnel est terminé depuis 2 ans et demi maintenant. Quant à la Seine, elle est traversée avec 7 caissons qui ont été progressivement immergés.
Fin septembre, le dernier.
Le dernier a été descendu fin septembre. On est en train de l'enfoncer dans le sol et dans quelques semaines, la traversée de la Seine sera totalement terminée et continue. Il nous restera ensuite un petit espace entre la Seine et l'avenue de Madrid et qui fera la jonction entre le tunnel qui vient de la partie ouest dont je viens de parler et puis celui où nous nous trouvons maintenant. Ça sera terminé dans le courant de 1968. C'est un terrain rapporté où il y a beaucoup d'eau et c'est un travail difficile mais qui progresse normalement.
Telle est donc la situation pour la branche ouest Défense Étoile, mais nous sautons donc directement à la Nation.
Place de la Nation, un nouveau puits s'enfonce dans le sous-sol de Paris. À 30 mètres de profondeur, les machines creusent une nouvelle station du métro express régional, la grande voie souterraine qui permettra en 1980 de traverser la capitale à 65 km de moyenne.
Finalement, les travaux entre la Défense et Étoile ayant pris du retard, c'est le tronçon Nation-Boissy qui sera achevé en premier. En décembre 69, un premier train d'essai s'élance.
Il roule, à l'essai certes, mais il roule. Le voici, le premier, le 001, bleu comme l'azur, pimpant et tout neuf. En pointe, 100 km/h, Nation Boissy-Saint-Léger par Vincennes, Nogent et les bords de Marne en 27 minutes, pas une de plus. Moyenne, 60 km/h contre 28 à peine pour l'autre métro, l'ancien. L'intérieur, regardez, il est placé sous le signe du confort. Point de départ et terminus de la ligne, la Nation. Avec des quais longs comme ça, 225 mètres, presque un quart de kilomètre. La Nation, insolite, avec son festival des mille et une couleurs. Peinture fraîche, coup de marteau, certes, mais rassurez-vous, ce sera prêt pour le 14 décembre prochain. Une confidence pour vous, mesdames, très bientôt. Vous aurez, dans cette station, des boutiques où vous pourrez faire vos courses avant de rentrer chez vous.
Philippe Ventéjol, est-ce que vous vous souvenez du 12 décembre 1969, c'est quand le premier tronçon a été inauguré? Est-ce que ça vous intéressait déjà?
Ah, ça m'intéressait énormément. J'avais été invité, je ne sais plus trop comment, à l'inauguration du tronçon Nation Boissy Saint-Léger. Et ce qui était frappant, c'était le décalage d'image et de modernité entre les nouveaux trains du RER de l'époque et puis les trains à vapeur qui achevaient leur carrière. C'était très, très, très frappant.
Oui, c'est ça, puisque ce 12 décembre, le dernier train à vapeur quitte la gare de la Bastille, fait son dernier trajet. Et quelques heures plus tard, c'est le premier RER A qui prend le relais depuis la gare de la Nation.
C'est bien ça.
C'était jour de fête à Boissy, à Nogent et à la Nation. Avec une fanfare, des flonflons, des discours
comme pour toutes les inaugurations. Il y avait des ministres, des PDG, des directeurs, des sous-directeurs. Bref, un millier de personnalités et le train, bien sûr.
Derrière cette carte, la vie de dizaines de milliers de gens qui va être bouleversée. Des habitudes changées, comme pour cette jeune banlieusarde qui a comparé avec nous les deux voyages, l'ancien et le nouveau.
Je m'appelle Paola. Je suis secrétaire bilingue dans une entreprise installée à la Nation. J'habite Boissy-Saint-Léger. Depuis 5 ans, tous les matins, je prends le train de 8h26. Oh, c'est long. Je commence à connaître par cœur ce chemin. Avec les réseaux express, ça va changer des choses. Hein? Pierre ne prendra plus sa voiture. Il va être content. Françoise m'a dit que c'était vraiment sensationnel. Des quais immenses, pleins de couleurs. Et puis même de la musique.
Paris-Bastille. Et encore le métro. Au total, une bonne heure de transport pour Paola, tous les matins et tous les soirs. Voici de nouveau Boissy. Le voyage nouvelle formule maintenant, toujours avec Paola.
C'est pas mal. C'est clair. Aéré. Les banquettes un peu dures quand même, hein. Pas de cendrier. Tiens, il ne manque qu'une hôtesse comme dans les avions.
Terminus, Nation, tout le monde descend.
Voilà. Finalement, vous avez gagné combien de temps?
33 minutes le matin, 33 minutes le soir. Donc ça me fait 1h, 6 minutes de plus chez moi.
Dans l'année, cela fera combien d'heures de gagner en tout pour ces 150 000 voyageurs?
39 930 000 heures de gagner par an.
Et que vous passerez chez vous, au lit le matin, à l'écoute 24 heures sur la 2 le soir.
L'une des conséquences de la création du RER, c'est la fermeture de la gare de la Bastille. La vie change aussi pour les riverains.
Le génie de la Bastille ne contemple plus qu'une gare vide. La naissance du RER a entraîné la désaffection de la gare de la Bastille. Les habitants de la banlieue qui par centaines y arrivaient tous les matins descendent maintenant dans d'autres stations ultramodernes. Mais pendant des dizaines d'années, des gens ont vécu avec le train. Ceux qui travaillent ou habitent sous les voies. Nous avons voulu connaître leur réaction maintenant que leur vie n'est plus troublée par le passage de ces trains.
Monsieur, est-ce que ce silence après le départ des trains, ça a changé quelque chose dans vos habitudes?
Il y en a un qui me réveillait le matin à 5h30, de temps en temps, pas toujours. Alors, ça me réveillait, et je me levais vers 6-7h, alors... Tandis que maintenant, je l'entends plus.
Il vous faut un réveil matin maintenant?
Il faut un réveil matin. Puis alors, il y avait un peu de charbon qu'il n'y a plus maintenant. Il y avait des résidus de charbon qui tombaient de là-haut.
Oui, parce que c'était des locomotives à vapeur qui passaient.
Oui, c'était des locomotives à vapeur, toujours. J'avais toujours dit de mettre des diesels. On m'a dit non, les voûtes sont pas assez solides pour porter des diesels.
Vous receviez beaucoup de poussière de charbon ici?
Ah, encore assez, oui, vous savez.
Puis il y avant quelques pierres qui tombaient.
Pas tant tellement. Il faut pas croire qu'on recevait des masses.
Quelques semaines plus tard, le 20 février 1970, c'est enfin l'inauguration du tronçon La Défense-Étoile.
Le ministre des Transports, M. Raymond Mondon, accompagné de tout l'état-major de la RATP, a inauguré ce matin à Paris la section Étoile-Défense du RER, le fameux réseau express régional. M. Mondon n'a pas caché son admiration pour cette gigantesque réalisation, réalisation dans laquelle le ministre voit également le symbole d'un renouveau pour l'homme dans la cité.
Le réseau express régional est une magnifique réussite sur le plan de la qualité des services dans ses aspects les plus divers. Il réconcilie, si toutefois il en était besoin, l'homme et la technique, celle-ci prenant toute sa valeur en fonction des services et qu'elle rentre au premier. Marqué par la science, ce dernier quart du XXe siècle doit avoir pour tâche essentielle de maîtriser la technique pour la mettre au service de l'homme moderne. De l'issue de cette grande et vaste entreprise, dans les transports comme ailleurs, dépendra, me semble-t-il, la disparition ou la survie, peut-être même l'épanouissement, d'un humanisme renouvelé.
Je vous rappelle que la section étoile défense du RER pourra être utilisée dès demain par les Parisiens.
Non, monsieur, pas là. Introduisez votre billet derrière vous, sur le côté du portillon. Reprenez votre billet sur le dessus du portillon. Poussez le portillon, passez. Ah, pas comme ça, monsieur, vous avez fait tourner le portillon devant vous. Passez, passez, monsieur, passez. Introduisez votre billet. Reprenez-le sur le côté du portillon. Poussez le portillon et passez. Là, voyez-vous, actuellement, j'ai un incident sur l'escalier mécanique. J'arrête l'alarme sonore, je prends mon escalier mécanique en caméra de télévision. S'il n'y a rien dessus, s'il n'y a plus personne dessus, c'est que peut-être un plaisantin a appuyé dessus. Alors, de mon pupitre, je peux le remettre en route. Voilà, l'escalier est parti. Et l'incident est terminé. Les voyageurs sont priés de conserver leur billet. Il leur sera nécessaire à la sortie.
Le président de la République, M. Georges Pompidou, consacrera, je vous le rappelle, toute sa journée de demain jeudi à un voyage dans la région parisienne. Le chef de l'État visitera les préfectures des nouveaux départements, Bobigny, Créteil, Évry, Cergy-Pontoise, Nanterre. M. Pompidou empruntera des modes de transport variés, la voiture, l'hélicoptère et le métro express dont il inaugurera au centre de Paris la nouvelle station Aubert. Une station dont la mise en service le 23 novembre permettra aux Parisiens de se rendre en 5 minutes de l'Opéra à la Défense. Ce matin, la direction de la RATP a présenté à la presse le nouveau tronçon du RER, étoile Charles de Gaulle-Aubert. La station Aubert devient donc le nouveau départ de la branche ouest du réseau express régional. Située à 36 mètres sous terre, elle mesure 225 mètres de longueur, est équipée de nombreux escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, d'un réseau de télévision et d'une galerie marchande. Parmi les premiers voyageurs, Henri Vincent, qui a fait ce parcours de 2 minutes 30, en compagnie du directeur général de la RATP, M. Pierre Veil. Ah, je crois que nous avons un problème de liaison avec M. Pierre Veil et Henri Vincent. Peut-être nous allons pouvoir entrer à nouveau en contact avec eux.
Monsieur le directeur général, nous venons de quitter la station étoile Charles de Gaulle. Dans quelques minutes, nous serons...
Dans moins de 3 minutes, vous serez à l'Opéra.
À la station Aubert. Il y a 6 ans que les travaux ont commencé. Oui. C'est un travail gigantesque qui s'est déroulé pratiquement sans que les Parisiens s'en aperçoivent.
Bien sûr, les Parisiens s'en sont pas aperçus. Quand le métro va marcher, on oubliera les difficultés qu'il y a eu à surmonter. Pour être tout à fait juste, il faut dire que les riverains ont quelque peu souffert et nous nous en rendons bien compte. Car sans jamais interrompre la circulation, nous avons tout de même, dans ce quartier, apporté quelques gênes et j'aurais mauvaise grâce à ne pas le rappeler.
Quel est l'intérêt du tronçon étoile Aubert ?
L'intérêt du tronçon étoile Aubert, c'est que c'est un intérêt de la grande transversale et la liaison Aubert-étoile, qui va se faire en 3 minutes, va donner en le quartier Opéra et Saint-Lazare une liaison qui n'existait jamais dans Paris. Vous pouvez prendre l'autobus, une voiture particulière ou le métro en changeant à Concorde ou à Champs-Élysées ou ailleurs. Et il fallait 20-25 minutes et quelquefois plus. Par conséquent, venir 3 minutes en reliant le centre à la fois commercial, bancaire ou autre de la région de l'Opéra avec le quartier de l'Étoile des 16e, 17e et 8e arrondissements dont vous savez comme moi tout ce qu'il regroupe au point de vue commercial, bancaire et habitation. Je crois que c'est une date dans les transports de Paris.
Et puis il y a cette station Aubert qui est gigantesque et qui est située à 36 mètres sous le sol.
Je n'aime pas ce mot gigantesque. La station Aubert est à l'échelle des problèmes que nous avions à résoudre et nous avons cherché à le résoudre au mieux des voyageurs pour leur donner ce qu'ils sont en droit d'attendre aujourd'hui d'un moyen de transport moderne.
Je vous remercie, nous sommes arrivés.
trouvons au moment où un métro entre en gare d'Aubert, Opéra, Havre, Caumartin. Nous nous retrouvons dans cette station nouvelle de la RATP que tous les Parisiens, tous les étrangers de passage à Paris, tous les provinciaux de passage à Paris pourront découvrir à partir de mardi 10h du matin. Belinda, vous êtes arrivée par le métro.
Je suis arrivée par le métro, mais surtout j'ai des souvenirs parce qu'il y a 15 ans, j'ai pris, pas celui-là, mais j'ai pris le métro très très souvent.
Oui, ça a beaucoup changé. Vous êtes passé à travers cette station Aubert, vous avez vu les petites bulles dans la grande salle.
Oui, des igloos, comme on appelle ça, c'est ça, non?
Des igloos, je crois, oui.
Oui, c'est très amusant, je trouve.
Bien, puis vous êtes tout près de ce lieu où vous allez travailler pendant quelques temps maintenant, tout près de l'Olympia ici.
Je suis tout près de l'Olympia, oui, je suis à partir du 23 novembre jusqu'au 5 décembre avec Georges Chelon, Mike Brandt, les ballets d'Anne Béranger, les Girolas et Philippe Parmentier.
Oui, nous allons en reparler tout à l'heure de l'Olympia, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il n'y a plus de problème pour les Parisiens, pour les banlieusards ou pour tous ceux qui voudront aller à l'Olympia à partir du 23. Ils pourront venir par dizaines de milliers grâce à cette station Aubert.
C'est merveilleux.
Puisque 50 000 personnes pourront arriver chaque jour pour voir Dalida à l'Olympia par la station Aubert Opéra Havre Caumartin.
Puis, le 7 décembre 72, c'est l'ouverture de la branche ouest du RER A vers Saint-Germain-en-Laye.
Dans les grandes villes, incontestablement, on ne pourra plus se déplacer en voiture dans une dizaine d'années, à moins de raser toutes les maisons et de reconstruire des rues à la place. Il n'y a d'avenir dans les agglomérations que pour les transports en commun. Du nouveau à Paris en ce domaine, l'ouverture de la branche ouest du RER, le réseau express régional entre le centre de Paris et Saint-Germain-en-Laye. La ligne de Saint-Germain, devenue ainsi la plus moderne, est aussi la plus ancienne, puisque c'est là que circulait au siècle dernier le premier train de voyageurs de l'histoire. Nous allons voir un reportage sur le RER et nous commençons par le commencement.
Saint-Germain-en-Laye est un carrefour. Carrefour commercial, carrefour d'histoire et d'art. Presque sous le château est arrivé le RER, réseau express régional, dernier né des techniques modernes de transports en commun. Cela change bien des habitudes établies, ainsi que l'a surpris cette semaine notre caméra.
Un carnet, deuxième place, place Paris.
17 francs, monsieur.
Alors, c'est 17.
Alors, si vous avez de la monnaie, ça fait beaucoup mieux.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Le ticket, là.
Ça sort, ça va sortir.
Là.
Ça sort, voilà.
C'est parfait.
Non, pas là. Ça, c'est les cartes hebdomadaires.
Au premier, on met le billet de 10 francs. Et puis après, on marque où est-ce qu'on va. On marque où est-ce qu'on va et puis après quand c'est marqué, ben on appuie sur le bouton de la carte de travail puis il y a le prix qui sort.
Tout ou presque tout dans le RER est automatique.
Et enfin, c'est l'apothéose, avec l'interconnexion et la jonction du RER à Châtelet le 8 décembre 77. Ce symbole de la modernité est célébré dans la Liesse.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous l'appelions jusqu'alors le RER, Réseau Express Régional. Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a inauguré ce matin, préfère lui l'expression de métro de l'Île-de-France, pour mieux prouver que c'est toute une région qui va bénéficier de ce super métro. Les Parisiens, bien sûr, et plus d'un million de banlieusards. Les deux tronçons du RER sont reliés depuis ce matin et leur raccordement effectué avec l'ex-ligne de Sceaux. Le chef de l'État était lui-même aux commandes de la rame inaugurale. Il apparaît-il bien conduit, mais a freiné un petit peu durement de temps en temps.
C'est un événement politique car le président de la République y assiste, c'est un événement culturel car il va donner lieu ces trois prochains jours à une centaine de manifestations artistiques, autrement dit une vraie mélodie en sous-sol, mais avant tout c'est une révolution dans la vie quotidienne des Parisiens, des banlieusards et au-delà de tous les Français. En tout, 92 km de voies RER et au Châtelet, la plus grande station de métro au monde. À l'occasion de cette inauguration du RER, le président de la République vient de prononcer un discours à Marne-la-Vallée sur le cadre de vie et les villes nouvelles. Sur place, Paul Amar.
Non, ce n'est pas Paul Amar, c'est André Lemas, Dominique Souchier et le président de la République, vous en parliez il y a un instant, est en train de visiter donc cette merveilleuse station Châtelet-Léal. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Le président de la République qui a parlé de cette inauguration comme d'une fête. L'inauguration d'aujourd'hui, a-t-il dit, est une fête pour tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce magnifique ouvrage. Un réseau express régional, 92 km, Paris traversé en 12 minutes, une capacité de transport sans égale au monde, de 60 000 voyageurs dans chaque sens. Nous avons su voir grand, a dit le président de la République, et ces immenses travaux, 600 000 mètres cubes de béton, 60 000 mètres cubes d'acier, sont aussi un bel ouvrage. Ils ont nécessité en plein cœur de la ville des chantiers d'une exceptionnelle difficulté. Ils ont été effectués au prix prévu, en avance, sur les délais convenus. J'adresse, a dit le président de la République, mes félicitations à tous et le slogan de ce RER et de cette station Châtelet-Léal, mieux vivre dans la ville, eh bien je crois qu'on ne saurait mieux le dire que ce qu'a fait ce matin et donc il y a quelques instants le président de la République. Vous entendez peut-être Dominique Souchier.
Oui, la mélodie en sous-sol a commencé.
C'est ça, c'est la mélodie en sous-sol dont vous parliez. Alors ce sont quelques extraits de l'ouverture de Carmen qui sont donnés par l'harmonie du personnel de la RATP. Mais tout de suite, cette allocution du président de la République.
Mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de penser à l'immense allègement de l'effort humain que cette réalisation représente. 20 millions d'heures de transport en moins par an. C'est, je crois, l'évaluation qu'on peut faire. 20 millions d'heures gagnées sur la fatigue. 20 millions d'heures rendues au sommeil, à la vie de famille, à la culture. À partir d'aujourd'hui, Paris et la banlieue auront un peu moins à courir.
Du train de banlieue au réseau express régional par Christelle Le Polotec et Anne Fleury.
Je tiens à souligner l'importance en particulier du rôle qui a été celui dans cette affaire de M. Pompidou, car comme dans tous les grands projets, il y a eu des moments de difficulté, il y a eu des moments de doute ou d'interrogation, c'est tout à fait naturel dans une grande œuvre humaine. Et au moment où ce doute, où cette interrogation s'est posée, Georges Pompidou, alors président de la République, a tranché. Et il a tranché pour la poursuite de l'effort.
Avec Philippe Ventejol. Merci à Lina et à Manuela Dubessy. Stagiaire Ada Carcero. Prise de son Fabien Gosset et Claude Nior. Mixage Alain Joubert. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter dans le RER, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret.
Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir La mort de Danton, un documentaire d'Alice Diop, qui termine en ce moment un documentaire sur le RER. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Demain, deuxième épisode, des stations comme des villes souterraines. Mais en attendant, restez à l'écoute.